Bonjour chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration de ce 20 mai. Nous sommes particulièrement heureuses, Michel et moi, de vous retrouver pour une émission en direct à laquelle donc vous pourrez participer en nous faisant parvenir vos messages, vos questions, soit par téléphone au 01 46 51 00 85 ou bien par courriel à courtoisie@rc.fr. Paul-Émile Victor, le célèbre explorateur et écrivain français, a écrit « La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle que l'on ne tente pas. » Tenter l'aventure, le dépassement de soi, plus qu'une simple prouesse technique, est souvent la quête de quelque chose, une quête de sens, une quête de soi, voire d'un plus grand que soi. Mais lorsque la réalisation d'un rêve ou d'une promesse en constitue le moteur, le chemin prend une toute autre dimension. C'est à ces expériences de voyage très fortes que je vous convie aujourd'hui, en compagnie de nos deux invités, Oriane Aymar, qui nous revient avec un ouvrage intitulé « L'appel de l'Everest », donc édité chez Mareuil, car avant l'Everest, il y a eu le Lhotse. Alors, elle nous relate, avec son écriture sensible et très incarnée, le récit de ce qui fut un passage initiatique, une étape nécessaire pour renouer avec un rêve ancien, longtemps suspendu, l'Everest. Cet ouvrage tout de même aussi présente la particularité d'évoquer la très haute altitude au féminin, ses difficultés mais aussi la nécessité de tenir physiquement, intérieurement, faisant preuve face à l'adversité aux nombreuses difficultés d'une force morale toute particulière et on verra qu'elle en a eu des épreuves. Et puis notre second invité, Alexandre Janson, que nous aurons en visio, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, ou par téléphone, nous verrons bien, il se trouve loin de Paris. Il est là. Bonjour Alexis aussi.
Oui, je suis là.
Donc vous nous proposez un premier ouvrage fort réussi intitulé « Jérusalem, une promesse » publié chez Salvatore dans la belle collection Chemin d'étoiles et préfacé par notre ami Alexandre Poussin que nous saluons. Alors, il témoigne de son aventure hors norme qu'il a lancée sur le chemin de Saint-Martin en direction de Jérusalem pour honorer une promesse d'adolescent. Soit 7000 km en une année et un séjour de 3 mois en Terre Sainte. Un pèlerinage à la rencontre des autres, de lui-même, de Dieu et une quête intérieure au sujet de sa vocation. Alors bonjour tous les deux, bonjour Oriane, donc rebonjour.
Bonjour Pascal,
Alexis.
Bonjour Alexis.
Voilà, Oriane est dans le studio et nous conversons avec vous, mais grâce aux écrans, eh bien, c'est formidable, c'est comme si vous étiez vraiment physiquement avec nous. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation pour venir témoigner finalement de vos chemins, de ces chemins verticaux et horizontaux. Pour vous présenter, Oriane Aymar, vous êtes auteur, conférencière et je dirais himalayiste. Vous étiez venu donc nous présenter votre précédent ouvrage « Au cœur de l'Everest », un récit déjà intime, personnel, de votre ascension donc du toit du monde. Et puis maintenant, avec « L'appel de l'Everest », vous nous livrez le récit d'une ascension radicalement différente, celle du Lhotse, un autre sommet donc himalayen, une aventure qui aura duré, je crois, 49 jours. Alexis Janson, alors quant à vous, eh bien vous êtes routier scout déjà, vous êtes auteur et pèlerin dans l'âme, comme vous aimez le dire. Vous publiez donc votre premier ouvrage « Jérusalem, une promesse » chez Salvatore, dans la collection « Chemin d'étoiles », au sujet de laquelle je voudrais redire deux petites choses, chers auditeurs, parce que c'est une grande originalité de cette collection qui de proposer en fait à la fin donc, de l'ouvrage une partie intitulée « Coulisses de chemin » où l'auteur se dévoile un peu plus, ou en tout cas se livre voilà, sur des détails, des choses qu'il n'a pas dites, écrites dans le livre. Et puis une seconde partie que je trouve aussi absolument intéressante, qui est intitulée « Chemin partagé », et dans laquelle eh bien, trois personnes écrivent et réagissent au chemin et à l'ouvrage. Voilà, donc des annexes tout à fait intéressantes qu'il ne faut vraiment pas rater de lire. Alors, nous voilà avec deux récits de chemin, de cheminement physique et intérieur. Donc, commençons avec vous, Oriane. On va partir, chers auditeurs. Et oui, partons maintenant pour les hauts sommets himalayens avant de partir sur les routes vers Jérusalem et sur les pas de Saint-Martin. Donc, Oriane Aymar, alors, votre livre, votre ouvrage, que je montre là, oui, voilà. L'appel de l'Everest, donc chez Mareuil. Dans cet ouvrage, je dois dire qu'on retrouve la jeune femme, comment dire, sensible, touchante, avec une force de caractère, une force d'âme très nette qu'on avait déjà découvert dans votre précédent ouvrage. C'est un récit d'alpinisme, mais c'est aussi un récit d'un passage initiatique, d'une conquête intérieure, puisque avant l'Everest, il y a eu le Lhotse, donc cette étape indispensable pour vous, je crois même le seuil, vous allez nous le confirmer, pour renouer avec votre rêve longtemps suspendu. Et je voudrais que vous nous rappeliez donc quel était ce rêve et pourquoi ça a été si longtemps suspendu.
Alors à nouveau, merci pour cette nouvelle invitation. Et juste pour préciser, je trouve que c'est un très bon match d'être là également avec Alexis. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a presque 30 ans maintenant, j'ai effectué deux fois les pèlerinages, alors pas à Jérusalem, hein, mais à Compostelle, une fois du Puy-en-Velay, j'avais 19 ans, puis un petit peu plus tard de Paris, et ça a vraiment constitué, disons, les bases, les bases de la suite, et peut-être que j'en serais pas arrivée à l'Himalaya, à l'Everest, au Lhotse ou à d'autres objectifs, d'autres rêves, si j'avais pas aussi effectué ces pèlerinages. Donc, je suis très heureuse aussi de pouvoir être ici avec Alexis et de parler de chemin, parce que le chemin, il est aussi vertical, horizontal, mais voilà.
Absolument. Je crois que d'ailleurs, Alexis nous le dira peut-être tout à l'heure si on en a le temps, mais à d'autres projets, effectivement, de plus grande envergure, dirons-nous.
Donc, mais par rapport au Lhotse, le rêve. Alors, le Lhotse, déjà, je précise, c'est la quatrième plus haute montagne au monde, donc il fait 8516 mètres, qui est situé au Népal également. Et le Lhotse était, je dirais, une étape un peu préliminaire à l'Everest. L'Everest qui était finalement pas le but ultime, mais le rêve initial. Et alors ce rêve, il a pris naissance assez jeune, après justement mon premier pèlerinage à Compostelle. Et là, j'avais 23 ans, j'étais au Tibet et pour la première fois, j'ai vu l'Everest au camp de base de l'Everest, donc côté tibétain. Et là, en fait, ça a été comme une vision, une révélation. Je me suis dit un jour, je serai au sommet. Et puis ça a pris plus de temps que prévu parce que presque quasiment 20 ans, même un petit peu plus de 20 ans avant que je puisse atteindre le sommet de l'Everest. Et donc, parce que moi, entre-temps, j'ai eu une hémorragie cérébrale, il y a eu pas mal d'obstacles.
Sur place, hein.
En Inde, mais en rien Inde, à voir avec l'altitude. Oui. J'avais juste une malformation en fait congénitale qui s'est mise à saigner, sans aucune raison dans le nord de l'Inde. Et donc, l'altitude m'a été interdite. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Et donc, la première étape, ça a été le Lhotse, qui n'est pas forcément la montagne la plus simple. Mais pour moi, Lhotse, comme c'est le sommet voisin de l'Everest, c'était quelque part une manière de me rapprocher de l'Everest. Et l'Everest, ce n'est pas n'importe quelle montagne. L'Everest, en tout cas pour moi, mais pas que, également pour les locaux, c'est la déesse mère. Et pour moi, c'est très lié à mon histoire, c'est très lié à la figure de la mère divine, enfin, quelle que soit sa forme, la Vierge Marie, enfin, c'est la mère dans l'absolu. Et donc, c'était une forme de... aller à l'Everest, mais même au Lhotse, quelque part, c'était une forme de pèlerinage. Et voilà, j'aime bien, parce que là, on répond clairement et à un appel, en fait.
D'où le titre, hein, l'appel, ouais. L'appel de l'Everest.
Ouais, tout à fait, exactement. Ouais.
Et vous dites d'ailleurs, en parlant du Lhotse, que l'on nomme simplement le pic sud, contrairement à la déesse mère, vous dites, c'est ce frère d'altitude de l'Everest, austère et redouté.
Oui, parce que c'est, disons que c'est un petit peu plus, je dirais pas forcément plus difficile, parce que maintenant que j'ai fait l'Everest, il y a tellement de facteurs, de paramètres à prendre en compte, je pense pas qu'il y ait des 8000 simples ou faciles à faire. Mais le Lhotse, oui, à la base, est considéré comme étant plus difficile parce que c'est beaucoup plus technique, c'est plus raide aussi. À la fin, on a quand même un couloir. Enfin, la dernière partie, ça fait quand même 80 degrés. Donc, c'est pas simple. Mais au final, je pense pas qu'il y ait de 8000 simples. Je m'en suis rendu compte avec l'Everest.
Alors justement, Oriane, moi, une question qu'on se pose, et d'ailleurs, vous la posez dans votre livre. Pourquoi risquer sa vie en montagne?
Alors... pourquoi risquer? Alors, en tout cas, pour moi, chacun a ses objectifs, sa façon de gravir la montagne. Mais Pour moi, je vois pas, même si les risques, bien sûr, sont très présents, hein, et je les ai vécus, les chutes de sérac, les crevasses, etc., les avalanches, chutes de pierres et autres. Mais à partir du moment, alors les risques sont présents, mais j'ai pas l'impression nécessairement d'en prendre, même s'ils sont là, c'est-à-dire que je réponds juste à un appel, je réponds à une aspiration, à un désir qui est très profond, et à partir de ce moment-là, je me dis, j'essaye d'anticiper bien sûr les risques, mais on peut pas tout contrôler. Mais je vois pas ça comme une prise de risque énorme. Je dis, c'est là où je dois aller, et puis ben, on va faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Mais je vais pas, je suis pas en train de me suicider ou quoi que ce soit. C'est vraiment,
Oh, bien sûr.
j'ai l'impression que moi, les risques, ils sont plus quand je prends, je sais pas, la voiture, et que, enfin, voilà, j'ai vu des gens partir pour des raisons, enfin, totalement stupides, et j'ai pas nécessairement l'impression de prendre un risque pour ma vie, en tout cas, même si les risques sont là. Mais
Alors, c'est vrai qu'au départ, votre questionnement est quand même, est-ce que je vais être capable de faire le lot-c'est?
oui, tout à fait. Alors, je me suis quand même un petit peu préparée, mais c'est vrai que là, bah déjà, comme je disais, j'ai dû attendre un certain nombre d'années avant de retourner en altitude, parce que bon, on m'avait déconseillé fortement l'altitude. Donc, il s'est écoulé quasiment bah, 15 ans entre mon hémorragie cérébrale et l'OTC. Et avant l'OTC, j'ai quand même fait un 7000 pour voir ce que ça donnait. Pour voir comment mon cerveau fonctionnait, et puis bah, pour me familiariser avec ce monde de la très haute altitude. Et puis ça s'est très bien passé. C'était Limlong, qui est un 7000 situé au Népal. Et donc j'ai décidé de continuer. Mais c'est vrai que bah, l'OTC, j'avais quand même forcément beaucoup d'appréhension. Et en effet, c'était pas simple. Mais c'est vrai que le premier 8000, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, et. Voilà, je l'ai grimpé en 2019, même si le livre ne sort que maintenant. Mais ça a été quand même, ça n'a pas été simple, ouais, je dirais.
Alors, d'où l'importance d'une préparation physique et mentale, de toute
Oui.
façon, et ça vous en parlez dans votre livre,
Oui, il y a le
est
mental
essentiel, voilà,
qui a un
essentiel
rôle
à.
fondamental, je dirais, beaucoup plus que le physique. Alors, il y a aussi la motivation intérieure, parce que même au bout d'un moment, le physique et le mental ne suffisent plus. Donc, faut
On le
vraiment
verra.
avoir, voilà, faut pourquoi on grimpe, pourquoi on fait, en fait, pourquoi on part à Jérusalem, pourquoi on grimpe, pourquoi, voilà, c'est toujours la question.
Et dans cette préparation, bon, bien sûr, il y a la bonne hydratation, il y a le fait comme vous le dites, hein, de vous préparer avant avec des séjours prolongés et successifs. On apprend quand même que contre le mal des montagnes, il y a un médicament manifestement qui marche, qui fonctionne, c'est le Viagra. Donc,
Ah oui, alors j'en ai pas pris, je l'avais, j'ai jamais pris en
vous
fait,
l'avez jamais pris,
mais
bon.
j'avais avec moi au cas où, parce qu'on m'avait dit que c'était, enfin la molécule, voilà, était,
Qui fonctionne et
voilà, fonctionnait,
qui.
mais je l'ai jamais pris. En fait, j'ai jamais pris aucun médicament en fait pour grimper. De toute façon, je me suis toujours dit, voilà, si je suis pas bien, je redescends, et puis voilà. Donc ça c'était,
Prudente
mais
et
jamais
oui.
de
Oui.
Diamox ou quoi que ce soit. Alors je sais que c'est assez pris, mais moi ça m'a jamais, voilà,
Bah écoutez, bravo,
tenté.
parce que vous l'avez fait vraiment dans des conditions réelles, on va dire. Et vous dites aussi que tout se joue en haute montagne, dans les micro-détails.
Ah oui, complètement, bah tout. Ah oui, bah je m'en suis rendu compte, mais je le savais, mais voilà. Et même quand on anticipe, il y en a toujours des surprises. Ah bien, faut tout préparer, hein, que ce soit le matériel et tout, mais il faut être extrêmement attentif, mais attentif à son environnement, bien sûr, mais aussi à soi-même, en fait. Faut s'observer tout le temps. Voilà, comment je me sens à ce moment-là. Et même, voilà, si on s'est dit, on s'est donné telle limite, eh ben, il faut être sûr que, voilà, il faut être capable aussi de changer aussi quelque part son objectif ou ses limites.
Et du coup, en fait, quand on voit, on a un petit souci technique, mais bon, tout va bien. Un téléphone peut-être. Donc, ce lot-c, eh bien, va être une ascension donc radicalement différente, hein, comme je le disais en introduction. Bon, déjà parce qu'il ne s'agit pas de la même montagne, même si, comme on va le voir, le début de chemin est
Ouais.
similaire. Mais c'est surtout parce que vous allez explorer finalement là la haute altitude au féminin. En sachant plus que vous allez être la seule femme d'une équipe de 10 hommes, si j'ai bien compris. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur cette équipe qui va quand même vite se révéler avoir de nombreux travers. Alors, il y avait des Américains.
Oui, alors c'était une équipe internationale. Il y avait différentes nationalités, surtout des Américains. Alors, il y avait au total, j'étais l'unique femme de l'équipe. Donc, ça faisait, donc grimpeurs et sherpas confondus, ça faisait environ 25 à 30 voilà, personnes, voilà, enfin hommes. Donc, et j'étais la seule femme.
Parce qu'un sherpa par personne,
Oui,
ou
à peu
à peu
près,
près.
ouais, en général. Mais après, il y a, voilà, il y a la logistique, etc. Mais et donc il y avait, parce qu'il y a des gens qui restent au camp de base, il y a des gens qui restent au camp 2, enfin, dans la logistique et dans les Sherpas. Oui, ça a été, une équipe internationale. Il y avait des Brésiliens, il y avait donc des équipes, enfin une équipe américaine, et puis il y avait aussi un Saoudien, un Canadien, enfin voilà. Mais en tout cas, j'étais la seule femme.
Et donc, il va y avoir, dans les Américains surtout, celui qui devrait être, entre guillemets, qui devrait avoir le leadership, excusez-moi, chers auditeurs, on va dire le chef, un certain John qui, lui, va carrément vous pourrir la vie.
Ah oui, on peut le dire, ouais. Je pense que c'est le mot qui est
Familièrement.
approprié. Hein. Mais oui, ça a été très compliqué. Je pense que ça a été, malgré toutes les difficultés autres qu'on a pu avoir aussi pendant l'expédition, pour moi, ça a été véritablement la partie la plus difficile de l'expédition, être la seule femme de l'équipe, mais subir quelque part ce traitement négatif. Alors qu'à la base, je me disais, ça serait plutôt un avantage d'être une femme, et puis non, ça s'est révélé le contraire. Et ça a été l'enfer, en fait. Ça a été l'enfer
Parce
parce
que
que,
ils
au départ,
vous
c'était assez neutre, etc. Et c'est quand on a vraiment commencé l'expédition proprement dit, donc après avoir, donc c'est quand même, ça dure à peu près 2 mois, une expédition. Et donc après avoir atteint le camp de base de l'Everest et Lhotse, parce que c'est le même camp de base Everest-Lhotse. En fait, c'est la route, c'est le même itinéraire jusqu'au plus ou moins jusqu'après la bande jaune, enfin, qui est à 7000, un peu plus de 7007, voilà. Et après, les chemins bifurquent. Mais donc, ce camp de base, Lhotse ou Everest, voilà. Donc, on atteint le camp de base au bout de 10 jours, un trek, et après, bon, on reste quelques jours là-bas. Et ensuite, l'expédition vraiment commence. Et c'est là, pendant la phase d'acclimatation, parce qu'on ne va pas directement au sommet, que les choses sont commencées à se
Oui, parce qu'il
dégrader.
y a des rotations en fait,
Voilà,
hein. Vous allez
exactement,
dans les
pour
camps, les différents camps
s'acclimater,
et...
pour reproduire, avoir le temps que notre corps produise le maximum de globules rouges. Et il se trouve que dans l'équipe, en fait, j'ai été la première à toucher le camp 3, qui est situé à 7200 mètres d'altitude. Et donc, je parle de toute l'équipe complète. Et sauf que j'étais peut-être celle qui avait le moins d'expérience de l'équipe et l'unique femme. Et ça a déplu à certains, puisque au retour du camp 3, quand je suis retournée au camp 2, alors certains n'avaient même pas réussi à atteindre le camp 2, donc ils étaient encore au camp de base à cause de problèmes d'altitude ou autre. Et ceux qui étaient au camp 2, dont le fameux John, voilà, en question, l'accueil a été particulièrement froid. Quand je suis revenue. C'est-à-dire que là, c'est à partir de ce moment-là, on m'a complètement ignorée, mais ça a été vraiment radical. On m'a ignorée, on ne m'a pas adressé la parole, on ne m'a même pas demandé si ça allait, comment s'était passée voilà, la rotation enfin, jusqu'au camp 3, enfin, rien du tout. Et là, au départ, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très féminin. Hein, c'est que je me suis remise en question. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je me pose plein de questions. Et puis, j'avais pas du tout l'impression, c'est pas ma personnalité comme ça de me mettre en avant, etc. Et j'essayais quand même de, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait?
C'est ça qui est bien chez vous, c'est que votre réaction, c'est justement d'essayer de comprendre et
Oui,
pas de se dire tout de
complètement, ouais.
suite, ça y est, voilà, c'est parce que je suis une femme et
Ah
qu'on
non, pas
traite
du
comme
tout.
ça. Donc
Alors, je suis
c'est important de
pas.
le
Non,
dire quand
non.
même.
Mais même si après, du coup, ma
Voilà.
vision des choses a changé par la suite. Mais je me suis quand même interrogée sur moi-même, en fait, mais presque trop, parce que c'était. Et c'est au fur et à mesure, après, où je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement un problème, et que c'était le problème n'était pas moi, en fait, et que certains, et notamment ce John en question, mais qui a influencé toute l'équipe, ça posait problème que l'unique femme du groupe, qui en plus voilà, n'a pas beaucoup d'expérience à la base, finalement, touche le camp 3 avant tout le monde et finalement s'en sorte mieux que les autres. Et après, au retour au camp de base, après, il y a eu une pause avant l'ascension finale et c'est là que les remarques, les commentaires déplacés, pas sympas, ont vraiment... se sont installés au fur et à mesure et au bout d'un moment c'était l'enfer quoi et j'en pleurais parce que c'était devenu insupportable et c'était type que j'étais trop fragile pour grimper, que je devais payer plus mon sherpa parce que j'avais besoin plus d'aide que les autres, alors ce qui était complètement le contraire en fait, c'était les rôles ils inversaient les rôles. Et donc, j'étais dans cet environnement qui était très...
très malsain et très toxique.
Malsain, toxique, ouais, c'est le mot, toxique. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû dire stop, parce qu'il a fallu que je réagisse, ce qui n'a absolument rien changé à la suite. Mais tout cas, pour moi, ma posture. Ouais. Ah, oui.
Et d'ailleurs, vous parlez dans votre livre, vous évoquez cette longue lutte, finalement, des femmes et de l'alpinisme. Ouais. On voit que c'est vrai que c'est pas une histoire récente, que même si les premières femmes, notamment françaises, ont commencé à monter à la fin du 19e siècle, c'est surtout depuis, vous le dites, les années 80 à peu près que la haute montagne s'est féminisée. Il y a encore beaucoup de choses à parcourir plus peut-être chez les guides, il y a quand même là une normalisation, on va dire. Enfin, en tout cas, pas une normalisation, non, parce que je ne veux pas rentrer dans cet aspect homme-femme. Mais en tout cas, les femmes sont de plus en plus guides, plus qu'alpinistes.
Oui, il y en a un petit peu plus, mais c'est encore très lent. Il y a encore du travail à faire. Ouais.
Alors, ce qui m'intéressait, c'est que de ce point de vue-là, vous évoquez peut-être des atouts féminins pour la haute montagne. Donc là, j'aimerais bien vous entendre. En quoi les femmes seraient aussi prédisposées? Alors, attention, chacun a des atouts.
Oui, complètement.
Hein. Mais des atouts qui seraient peut-être plus féminins.
Ouais. Alors, bien sûr, je veux pas rentrer dans les clichés, mais je pense que oui, on est différents, hein, de toute façon, mais je pense qu'on a certains atouts, les femmes, certaines prédispositions, et je pense surtout qu'on n'a pas la même appréciation du risque. Et qu'on ne voit pas forcément les choses de la même manière et qu'au final, ce qui compte, c'est quand même de revenir en vie. Alors, je ne dis pas que les femmes ne prennent pas de risques, au contraire. Enfin, je pense que, voilà, mais je pense que j'en prends aussi. Je pense qu'on a une vision peut-être plus globale de l'environnement et qu'on est peut-être moins focalisé sur l'objectif en lui-même. Donc, je pense qu'à partir de là, on a aussi cette capacité aussi à renoncer quand il faut et finalement à rester en vie, quoi, parce que ça sert à rien d'arriver à un sommet si au final on meurt à la redescente donc c'est quand même la vie, et je pense que la vie est aussi inscrite en nous, en fait. On a cette capacité à donner la vie. Et je pense que même notre corps nous le rappelle, en fait. D'ailleurs, on a aussi, je pense, cette capacité de résilience qui est très forte en nous. Et dans des conditions extrêmes, le corps, en fait, il arrive peut-être mieux aussi à tenir. Mais après, ça, c'est ma théorie. Mais après, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les clichés.
Mais on entend bien, il y a une complémentarité. De toute façon,
c'est ça.
Alexis, je voulais avoir votre avis, justement, votre réaction sur la prise de risque. Vous, sur le chemin.
Alors moi, sur le chemin, la prise de risque, elle a été présente. Après, elle était quand même pondérée, puisque en ayant étudié l'itinéraire pour aller jusqu'à Jérusalem, en m'étant renseigné un petit peu sur les pays que j'allais traverser, et je m'étais créé aussi des Google Alerts, donc des alertes via Google par rapport à des mots-clés, pour garder un petit peu une vue à 360 sur ce qui pouvait advenir sur le chemin. Après, bien évidemment, le truc, c'est quand on part, et peut-être qu'Oriane l'a vécu en faisant son ascension, c'est qu'on part pas seul aussi. C'est-à-dire qu'on, d'une certaine manière, on engage ses proches aussi. On engage ses proches parce qu'en fait, ils comptent sur nous pour revenir. Et donc, du coup, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, parfois, c'est compliqué, mais parfois, il faut faire des consensus. de manière à pouvoir itinérer en sécurité et pouvoir arriver à destination avec ses, enfin, en forme, tout simplement.
Tout simplement. Alors, continuons donc maintenant. Alors, vous nous avez dit cet itinéraire, Oriane, donc le camp de base, les camps 2, 3, 4, avant la cascade de glace, qui est emprunté aussi lorsque on
pour aller jusqu'au
camp, et donc pour l'Everest. Ce camp, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans votre ouvrage, donc l'appel de l'Everest, eh bien, il y a des photos. Il y a un carnet de photos qui est tout à fait parlant. Des photos très fortes, je trouve, très belles, mais très fortes aussi, qui permettent vraiment au lecteur de s'immerger dans votre ascension, dans ce que vous avez vécu. Et j'ai retenu notamment des photos de cette cascade de glace, donc qui s'appelle aussi le mont Khumbu, hein, c'est ça ?
Non, Khumbu Icefall.
Ah non, voilà. Ouais. Et là, vous verrez, il y a vraiment ces photos très évocatrices. On se rend compte quand même de la dangerosité du lieu.
Alors ça, oui, par contre, là, pour on parlait de risque, là, je m'en rendais clairement compte. Et d'ailleurs, quand j'ai fait l'Everest, enfin, je m'en rendais déjà compte en traversant la cascade de glace, parce qu'il faut la traverser plusieurs fois, pendant la phase d'acclimatation et pendant l'ascension finale. Et je me rendais déjà compte du danger de cette cascade de glace. Voilà, parce qu'un immense glacier avec plein de séracs, des gros, enfin, des tonnes de glace qui peuvent tomber à tout moment. Et ça a toujours été ma hantise et ça n'a pas loupé parce que quand j'ai fait l'Everest, j'ai été prise dans une chute de sérac, donc il y a des énormes blocs de glace qui se sont effondrés, donc ça peut peser parfois des tonnes. Hein, et les chances de survie se sont effondrées juste derrière moi, donc les chances de survie sont nulles. Donc je pense qu'on peut vraiment parler de miracle.
Voilà, et là, on renvoie les auditeurs à votre premier ouvrage, donc au cœur de l'Everest. Ouais. Justement, les catastrophes, les malchances, ça va quand même être la dominante de cette expédition pour le Lhotse. Mmh. Il va y avoir quand même une foultitude, à tel point que, oui, à plusieurs fois, vous allez vraiment mettre en doute la continuité de l'ascension, voire effectivement une grosse prise de risque, donc vous allez risquer votre vie. Je voudrais juste qu'on cite peut-être, on ne va pas tout citer bien entendu, on va laisser nos auditeurs le lire d'eux-mêmes, mais peut-être l'épisode déjà de la semaine où vous allez être bloqué toute une semaine au camp 2 à cause d'une tempête de neige, d'une violence extrême.
Oui, en effet. Alors, on a été bloqué au camp 2. Donc là, c'était pendant la phase d'acclimatation, donc le camp 2 qui est à 6400 mètres d'altitude. Et en fait, à ce moment-là, j'avais deux options. La première option, c'était juste avant la tempête, de redescendre rapidement au camp de base et d'attendre que la tempête se termine en bas. Et la deuxième option, c'était de rester au camp 4, au camp 2, pardon, à 6400 mètres, pendant la tempête, jusqu'à ce qu'elle termine, afin de boucler ma rotation en touchant le camp 3. Et finalement, moi, j'ai préféré rester au camp 2 parce que justement, je ne voulais pas retraverser cette cascade de glace parce que je sentais bien dès le départ, cette cascade de glace, elle n'est pas pour moi. Et donc, je me suis dit, c'est moins dangereux de rester pendant la tempête. Et en fait, oui, ça a été assez violent, quoi. Donc, il y a des moments où on était bloqué dans la tente. Dès que ça se calmait un peu, il fallait déblayer, enlever la neige, etc. Donc, ça a été très long, surtout. Très long, puis il n'y a absolument rien à faire, et puis on entend les avalanches qui tombent, etc.
Ouais,
donc on n'est pas très rassuré.
Des bruits comme des bruits de guerre, des bruits particulièrement
même le glacier qui bouge. Enfin voilà, on n'est pas forcément très rassuré. Et puis il y a des moments, ça a soufflé tellement fort que j'étais recroquevillée dans un petit bout de ma tente parce que la tente était complètement plaquée. On avait mis des pierres tout autour pour pas qu'elle s'envole.
Quelle
aussi.
Horreur.
On avait attaché nos ouais. tentes les uns aux autres, mais c'était c'était une expérience. Mais bon, on n'est pas. Mais au final, je préférais ça que retraverser la cascade de glace.
On le comprend quand même, n'est-ce pas, Alexis, hein? Je pense que on comprend. Alors.
Ça se comprend bien, ouais.
Ça se comprend. Il y a d'autres. Oui, votre Sherpa aussi va vous quitter.
Oui, alors c'est ça, j'ai pas trop de chance avec les Sherpas,
c'est ce qu'on se dit quand on a lu le premier.
Mais bon, non, j'ai pas eu trop de chance non plus cette fois-ci. Alors le Sherpa que j'avais cette fois-ci bien choisi, qui avait fait l'Imlung avec moi, qui n'était pas forcément très agréable d'ailleurs parce qu'il était très influencé. Enfin, j'ai vu un tout autre comportement. Il était très influencé par les Américains, donc il a un peu changé de comportement parce que voilà, c'était. Et donc, oui, finalement, quand je suis arrivée pendant l'ascension finale, donc là, on parle vraiment de la dernière étape, je suis arrivée au camp 3, donc à 7200 mètres. Donc là, pour rester la nuit, hein, c'est pas seulement toucher le camp 3, et pour poursuivre après l'ascension du Lhotse, c'est là que par radio, j'ai appris qu'ils ne pouvaient pas monter parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais on était tous pas bien, enfin voilà, c'était pas spécialement, et donc il m'a un petit peu lâché, et on m'a quand même attribué un autre Sherpa, mais que je connaissais pas, qui parlait pas l'anglais, etc. Et puis moi je savais pas du tout, moi j'avais quand même à la base choisi. Mais au final c'était pour le mieux, de toute façon on n'a pas le choix, donc on s'adapte à la situation.
Et
mais,
puis, Pemba,
mais c'était grosse
ça
déception.
Va être son nom,
oui,
Pemba,
le nouveau.
Vraiment, ouais. va se révéler très très efficace, et en tout cas.
Totalement,
une grande aide pour vous. Alors l'arrivée au camp 4 ensuite, alors vous dites c'est le camp le plus inconfortable de l'itinéraire, hein, à 7850 mètres. Donc il y a des conditions de le froid, vous ne dormez pas, etc. Il y a plein de choses. Il y a la présence d'un cadavre aussi, parce que sur ces
on m'avait prévenu qu'il y avait un cadavre qui n'était pas loin du campement. Et je pensais qu'il y avait quand même une certaine distance, sauf qu'il était vraiment à côté. Et en plus, bon, ils avaient retiré la tente à ce moment-là, parce qu'en fait c'était un grimpeur qui avait gravi donc le Lhotse, mais sans oxygène, voilà, d'où l'importance. Et en fait, il était mort d'épuisement dans sa tente. Donc, ils avaient retiré la tente, et puis le cadavre était là en plein milieu, à côté de nos tentes.
Donc, on imagine. Et puis surtout, là, vous allez avoir vraiment, on va dire, la poisse. Hein, l'embout de l'extrémité du tube qui relie votre masque à oxygène à la bouteille est cassé. Et alors là,
Parce qu'il y a un micmac en fait au niveau des masques à oxygène, parce que moi j'ai fait de la plongée, ça c'était avant mon hémorragie cérébrale, donc je sais très bien, je faisais de la biologie marine, enfin j'ai étudié, et j'avais testé mon masque, etc. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand on est arrivé au camp 3, il y a eu un mélange de masques, et je me suis retrouvée, enfin, pas avec le masque que j'avais choisi, parce que normalement, on teste ces masques. Hein. Donc ça a été, en fait, comme on parlait de micro-détails, ça a été, en fait, une accumulation de micro-détails, et j'avais un masque qui n'était pas fonctionnel. Donc en fait, ça, je me rendais compte qu'en allant au camp 4, en fait, je respirais mieux sans le masque, ce qui n'était pas du tout normal, en fait, donc je l'enlevais tout le temps.
Et ce qui aurait pu tout à fait, si ça s'était arrêté là, arrêter justement votre ascension.
Oui, alors ça a été une énorme épreuve pour moi, parce que donc, je réalise au camp 4 que tout d'un coup, le masque se casse, et donc Pemba Sherpa, donc le nouveau Sherpa qui était là, me dit c'est fini quoi. Et là sur le moment je me dis dans ma tête ça part dans tous les sens, mais c'était l'effondrement. Je me dis avoir fait tout ça pour que tout s'arrête d'un coup,
et là vous allez avoir une réaction assez incroyable.
Et ben là, en fait, j'ai essayé de trouver des réponses, j'ai essayé de trouver des solutions, puis finalement, il n'y en avait pas. Et là, au bout d'un moment, d'un certain temps, enfin voilà, 2 heures, il y a tout qui m'est passé par la tête. Hein. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est que je ne dois pas y aller, puis c'est comme ça, quoi. Après tout, voilà, je l'accepte, j'ai donné tout ce que je pouvais, et maintenant, je remets ça, au très haut, et j'accepte. Et c'est là, mais très très rapidement, c'est à partir de ce moment-là, peut-être dans les 20-30 minutes qui ont suivi, c'est qu'en fait, il y a un autre Sherpa qui revenait du col sud de l'Everest, qui est passé par notre camp, alors qu'il n'était pas censé venir à notre camp. Et en fait, on était déjà en fin d'après-midi. Enfin, pour moi, tout était foutu. Et puis, je me disais, c'est bon, quoi, j'irai pas au Lhotse. Et John sera ravi, qui était dans la tente à côté. Et je me suis dit, et en fait, le Sherpa, qui redescendait, il a proposé de me prêter son masque pour 100 $. Alors, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, récupérer un autre masque, quoi. Mais vraiment, c'était le dernier. Enfin, j'y pensais même pas, quoi. Pour moi, c'était fini. Mais du coup, ça a été dur. Et là, j'ai compris aussi ce que c'est que, l'acceptation. Parce que là, c'est plus théorique, quoi. C'est vraiment, j'accepte. Et c'est là où ça se dénoue. C'est là où il y a... justement, les portes s'ouvrent, hein. mais ça prend, c'est pas simple.
C'est un processus long, et d'ailleurs, on pense, et vous citez aussi Job, bien sûr, dans la Bible. Ouais, cher Michel, je pense qu'il est temps de nous identifier.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du 20 mai 2026, dirigé par Pascal Maurer. A cité Michel, le thème de cette émission est « Quand le chemin réalise le rêve et la promesse ». Les invités sont Oriane Aymard, auteure conférencière et himalayiste, pour son ouvrage « L'appel de l'Everest » aux éditions Mareuil. Et Alexis, ou Alexandre, je ne sais pas, Janson.
Alexis
Janson, auteur, conférencier et pèlerin dans l'âme, pour son ouvrage « Jérusalem, une promesse » aux éditions Salvator, dans la collection « Chemin d'étoiles ». Vous pouvez nous adresser vos messages au 01 46 51 00 85 ou courtoisie.rc.fr. D'ailleurs, nous venons de recevoir un message. Alors, nos destinations secrètes sont une étape vers ailleurs. Les plus secrètes trajectoires unissent et séparent une espérance qui rêve. Remerciements pour cette émission.
C'est très très beau. Merci beaucoup, cher auditeur. Je pense que c'est un auditeur. Voilà, merci infiniment. Alors, en terminant donc sur ce camp de 4, il va y avoir encore une fois d'autres choses. Mais bon,
ça continue jusqu'à la fin. Ça n'arrête pas.
Et lorsque vous arrivez au sommet, parce que vous y arrivez, là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, peut-être que vous allez éprouver. Ouais. Et en même temps, malgré votre joie, vous écriviez, je ressentis une sorte de malaise dans ce lieu inhospitalier des plus impropres aussi.
Alors déjà, là, on passe la zone de la mort. Bon, on y était déjà plus ou moins au camp 4, mais là, on est vraiment dans la zone de la mort, donc il y a trois fois moins d'oxygène. Donc là, ça correspond plus ou moins à la hauteur à laquelle les avions de ligne volent. Donc là, en fait, nos cellules, les cellules de notre cerveau, tout ça ne fait que se détériorer à vitesse grand V. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est un endroit qui est inhospitalier. Il ne faut pas traîner, quoi. Oui. C'est pas un lieu qui est fait pour la vie.
Donc, alors déjà, il y a ça. Parce qu'on a enfin atteint quand même ce sommet.
Ah ouais. Il ne faut pas rester trop longtemps et on le sent vite, hein. Et surtout, en fait, en arrivant, à la fois, il y a la joie de parvenir au sommet. Et puis, d'en haut, bah, je vois la déesse mère, donc l'Everest. Et voilà, je me rapproche.
C'est une belle photo, d'ailleurs.
Oui. Je me rapproche de la déesse. Et donc, forcément, bah, ça me rappelle aussi tout ce qui s'est passé, mon histoire, etc. Et voilà, un grand accomplissement, mais on sait quand même qu'il y a encore toute la descente à faire, vu déjà la succession des difficultés, crises.
Et là, la descente va être redoutable.
Oui, et c'est surtout aussi à la rencontre avec un autre cadavre, mais qui est vraiment quasiment au sommet. Je crois que depuis, ils l'ont enlevé, mais là, à quelques mètres du sommet, il y avait un cadavre qui était là depuis 7 ans. Donc ça, c'était en 2019. Ouais. Et en fait, il faut vraiment... Donc là, on est sur une pente de 80 degrés. Et là, quand on arrive, il faut vraiment le frôler, en fait, pour arriver jusqu'au sommet. Et là, forcément, c'est un peu perturbant, même surtout qu'on m'avait rien dit.
En plus,
on m'avait rien dit. Donc, on m'avait prévenu pour l'autre cadavre au camp 4, mais on m'avait pas dit qu'il y avait un cadavre juste au sommet qu'il fallait croiser. Et là, c'est la rencontre avec la mort, quoi. À la fois, il y a cet accomplissement, ce sommet qui est là, et à la fois, c'est la mort. Donc finalement, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Surtout que ce cadavre, il était quasiment intact, hein, parce qu'avec le froid qu'il fait, presque, on aurait presque dit qu'il est presque vivant, quoi. Donc, c'est très perturbant.
Ça doit l'être, on imagine bien.
Ouais, donc on arrive au sommet, on se dit... Puis surtout qu'on voyait les nuages, à la fois, je voyais l'Everest, clairement, mais il y a les nuages qui arrivaient, mais à vitesse grand V.
On le voit d'ailleurs sur la photo, déjà.
Une tempête qui n'était pas du tout prévue. Et donc, il fallait redescendre rapidement et on est redescendu dans la tempête. Voilà, donc ça a été compliqué.
Je crois que particulièrement aussi, la dernière descente jusqu'au camp de base, je crois que c'est le pire pour vous.
La cascade de glace. Cascade. Ouais.
On y revient.
Ouais.
On y revient. mais vous avez réussi.
Oui, sinon je suis là, je suis encore là, mais les échelles ne tenaient plus, etc. Enfin, c'était...
Et alors, vous allez apprendre quand même que vous êtes la quatrième parmi les Françaises ayant gravi le Lhotse, donc félicitations, on est très fiers, cocorico. Et donc, c'est vrai que de cela, vous allez forcément être épuisé physiquement, moralement,
ouais,
donc vous avez expliqué, parce que tout ça, tout ce que vous avez vécu, la violence de ce que vous avez vécu prend du temps, on l'imagine. Mais je voudrais terminer par trois aspects positifs pour vous qui m'ont fait penser à un voyage initiatique. Vous dites que vous avez découvert en vous déjà une force insoupçonnée.
Oui, et qu'on n'a jamais fini de finalement de connaître assez en fait, parce qu'elle se à chaque fois, bah, elle est toujours là, mais elle s'amplifie. Enfin, je l'ai vu à l'Everest, mais même dans le quotidien, dans la vie. Hein, mais c'est vrai que bah, à travers les épreuves, on se rend compte de cette force qu'elle a, qui nous guide, qui va pas forcément enlever les obstacles, mais oui, cette force en nous qui est là et qui nous protège aussi quelque part, mais qui nous guide, cette voix intérieure qui est là, toujours là. Lumière, ouais.
Et fondamentale, cette lumière, oui. Mmh. Et puis ce défi d'accepter vos fragilités aussi, c'est un défi quand même, c'est quelque chose aussi, cette acceptation.
Oui, cette acceptation et ce dont je me rends compte aussi quand on est à 8000 mètres, c'est que bah, on est extrêmement vulnérable et qu'en fait, plus on lutte contre cette vulnérabilité et plus ça donne l'effet inverse. Donc, au bout d'un moment, faut juste accepter d'être vulnérable et accepter qu'on puisse pas toujours tout contrôler, quoi. C'est juste ça.
Alors ça, Alexis, on va en parler là parce qu'on va passer à vous maintenant.
Oui.
Cela va permettre, bien sûr, ce lotse va être l'étape nécessaire à Oriane Aymar pour franchir l'Everest, hein, ce que vous allez réaliser en mai 2023. Et vous écrivez, ce n'était pas une revanche, mais une réconciliation, une prière exaucée. Donc un grand merci pour ce témoignage. Je remontre votre livre, donc L'appel de l'Everest, Oriane Aymar, donc aux éditions Mareuil. C'est un livre qui se lit, mais vraiment, on est plongé avec vous dès le départ. Il est très riche aussi. Très, très vivant, très riche de nombreuses réflexions intérieures, ce qui est aussi un grand, grand plus pour un plus qu'un récit de voyage. Ça en fait plus qu'un récit de voyage, tout comme le livre d'ailleurs d'Alexis Janson. Alors je crois qu'avant, Alexis, nous avons un petit bobino à passer.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement. Pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Bien, chers auditeurs, après l'aventure d'une trempe certaine d'Oriane Aymar sur le Lhotse, eh bien, nous allons passer à une autre aventure d'une autre trempe aussi, la vôtre, Alexis Janson, que vous relatez dans votre ouvrage « Jérusalem, une promesse », donc publié chez Salvatore. C'est donc votre premier ouvrage vous y racontez, vous y relatez votre périple qui vous fait partir sur les routes un jour de janvier 2024 de Noisy, donc proche de Tours, sur le chemin de Saint-Martin en direction de Jérusalem pour honorer une promesse d'adolescent. Donc comme je le disais tout à l'heure, 7000 km de marche tout de même et 3 mois ensuite en Terre Sainte où vous ne resterez pas inactif comme on le verra peut-être ou en tout cas comme c'est décrit dans votre livre et si bien. C'est une aventure peu ordinaire, un pèlerinage à la rencontre de Dieu, des autres, de vous-même, écrivez-vous, hein, dont vous faites vraiment magnifiquement témoignage. Et avant toute chose, je voudrais vous dire ma réaction, ce qui m'a frappé en fait à la lecture de votre ouvrage, c'est votre façon d'appréhender la marche, le rude en fait, l'exigeant, l'absolu, l'adversité, ne vous font pas peur en fait. Et j'ai trouvé par là que ça faisait de vous une sorte d'aristocrate de la marche, mais pas un idéaliste, comme vous l'avez fait remarquer aussi.
Oui, tout à fait. En fait, la route, vraiment, l'itinérance, on ne peut pas être dans un fantasme. On a besoin de se raccrocher à la réalité, au concret. Parce que c'est bien beau d'avoir des grands projets, mais en fait, il y a aussi la réalité du monde et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est sûr que ce pèlerinage, il fallait composer avec le réel, mais pour autant, ça n'empêche pas de s'engager pleinement dans la route et d'aller un peu se râper sur le pupitre un peu rugueux de Notre-Dame-la-Route. Parce qu'on peut être porteur de projets, c'est ce que j'étais au départ hein, quand je suis parti de Noisy. J'étais porteur de ce projet de marche, de ce projet de pèlerinage. Et puis, il a fallu passer du fantasmé à l'essentiel. pour derrière devenir vraiment pèlerin, comme une sorte de travail de fond, et en fait accepter et accueillir la route comme elle est, et pas comme on a pu l'imaginer. Moi, je l'ai préparé pendant un an et demi, ce pèlerinage, donc c'est sûr que je l'ai imaginé de nombreuses fois.
On imagine bien, on imagine bien. Et c'est vrai que, vous le dites, hein, ce voyage s'inscrit dans la durée, une histoire de graines et de germes. J'ai bien aimé cette expression. Alors, il faut dire qu'à l'aune de cette aventure, donc, il y a une promesse que vous vous êtes faite à vous-même à l'âge de 12 ans, quand vous étiez scout.
Oui, tout à fait. C'est une graine qui est apparue dans ma vie quand j'étais sur un parking dans l'Oise en attendant mon chef de troupe. C'était pendant l'automne ou début d'hiver. Et en discutant pour oublier qu'on avait froid, parce que très concrètement, la grisaille nous environnait complètement, j'ai appris que Constant, mon chef de troupe, l'avait fait à vélo. Et donc, du coup, ça a essemé cette envie, ce rêve, et qui s'est réalisé 23 ans plus tard. Et comme le disait Oriane tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que moi aussi, Saint-Jacques-de-Compostelle a été une marche palière pour après me dire que Jérusalem était possible, était atteignable.
Comme quoi, faites Jérusalem, chers auditeurs, ou chers jeunes aussi, qui nous écoutaient et qui rêvaient d'aventure.
Bien sûr, il faut partir sur la route.
Alors, la vraie raison de... Enfin, pas la vraie, mais on dirait... J'ai envie de dire une raison peut-être plus profonde de ce pèlerinage, pour vous, c'est d'assouvir votre soif de retour à la foi, si j'ai bien compris, et aussi de discerner votre vocation.
Alors, pas forcément un retour à la foi. Après, c'était un approfondissement de ma foi, un peu à la manière de Chateaubriand qui part vers Jérusalem. Alors, il est loin de marcher tout le temps. Hein. Il prend beaucoup le bateau, il est à cheval. Mais après les génies du christianisme, il a eu envie d'aller voir justement à quoi ressemblait la Terre Sainte. Il avait envie d'aller un peu humer cette terre, voir un petit peu les couleurs, en fait, pouvoir associer des images aux textes qu'il entendait depuis l'enfance. Et moi, ça a été un petit peu mon cas aussi. Et donc, du coup, forcément, un pèlerinage comme ça, bien fortifier la foi. Après, encore faut-il marcher en pèlerin. C'est-à-dire qu'on peut très bien marcher une route de pèlerinage comme randonneur, comme marcheur, pas forcément comme pèlerin. Et c'est toute la difficulté en quittant la sédentarité et en se mouvant dans l'itinérance, de s'abandonner à plein à la providence de Dieu. Mais pareil, ça s'apprend, et puis il y a un lâcher-prise qui est nécessaire et qui se fait sur les premiers mois de marche. Et puis après, la machine est lancée, et puis tout roule, entre guillemets.
Alors vous m'avez confié hors antenne quelque chose que j'ai trouvé très beau. Vous dites justement au sujet d'être pèlerin, pour vous, il ne s'agissait pas d'évangéliser, de prosélytisme, mais vous dites que le contenu de ce pèlerinage a eu un parfum chrétien. Et je trouve ça très fort.
C'est très intéressant que vous le disiez, parce qu'on en avait parlé hors antenne, mais de fait, en fait, pour contextualiser pour les ceux qui nous écoutent, on parlait notamment de toute la promotion que j'ai fait du pèlerinage sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui se sont agrégés aux marcheurs lambda, parce que c'est comme ça que je me prénomme sur les réseaux sociaux.
Enfin, excusez-moi, mais pas vraiment lambda, quand on vous lit.
oui, alors lambda au départ, mais de fait, je reste un pèlerin parmi tant d'autres. Voilà, j'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres. Et du coup, pas lambda sur l'intention peut-être, et la détermination et la volonté. Après, lambda parce que je ferai partie à terme de la communion des saints et que de fait je fais partie de la longue corde des pèlerins de l'Église. Mais en tout cas, voilà, le pèlerinage a agrégé 40 000 personnes sur Instagram, ce qui est assez assommant comme chiffre. Mais notamment quand j'étais en Serbie, il y avait eu la polémique sur l'ouverture des Jeux Olympiques. Du coup, je m'étais exprimé par rapport à ça en tant que catholique, et du coup ça avait un peu écrémé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui en fait me suivaient parce qu'ils étaient subjugués par l'aventure de la rencontre, de la marche, mais pas du tout par le côté chrétien. Et c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir si j'allais un peu modifier mon contenu, et en fait j'ai gardé la même ligne directrice en me disant que en fait ce contenu n'avait pas une forme d'évangélisation avec la croix et la bannière, mais plus un parfum chrétien. Et en fait, par l'exemple de la marche, du quotidien, des réflexions, du partage de ma vie de prière aussi sur la route et de mon abandon à la Sainte Providence, bah, il y aurait ce parfum chrétien qui allait se diffuser et qui allait remonter dans les narines de ceux qui pouvaient suivre mon contenu. Et je crois énormément à la valeur de l'exemple plus que des grands discours. Et le premier témoignage vraiment de marcher aussi longtemps, malgré les difficultés, malgré le froid, malgré la pluie, malgré les mauvaises rencontres, malgré les chiens en Turquie. En fait, je trouve que ça a une valeur beaucoup plus percutante. Même si je dénigre pas du tout, voilà, ceux qui font du contenu sur Internet ou sur les réseaux sociaux en étant beaucoup plus évangélisateurs, bien évidemment.
Alors l'écriture, justement, je voudrais qu'on en parle avant d'aborder vraiment la route. L'écriture, elle est importante pendant et après le voyage. Vous avez des carnets, vous écrivez donc tous les jours, vous écrivez des articles pour des journaux aussi, des podcasts, et puis ces nombreuses publications auxquelles vous avez fait référence sur les réseaux sociaux. Et vous avez, je crois, dès le départ, l'envie d'écrire un livre après.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'avais cette envie-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était dans la continuité de Saint-Jacques de Compostelle où j'ai écrit un livre aussi quand j'ai abouti le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, mais que j'ai auto-édité. Et ce qui est très bien, d'ailleurs, parce que le marché littéraire est un peu saturé et beaucoup trop gorgé de littérature compostellane. Mais en tout cas, j'avais cette envie d'écrire un livre. Parce que c'est ma manière, et c'est là la deuxième raison qui me poussait à avoir envie d'écrire un livre, c'est ma manière de restituer. En fait, je crois, et peut-être qu'Oriane confirmera ce que je dis, mais pour la bonne réussite d'une entreprise aventureuse de pèlerinage, ou que ce soit pour l'ascension d'une montagne, aussi haute soit-elle, il y a trois phases qui sont importantes. Il y a la préparation, la réalisation et la restitution. Et en fait, il y a un système un peu de vase communicant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne réalisation parce qu'il y a une bonne préparation, il y a une bonne restitution parce qu'il y a une bonne réalisation. Et en fait, moi, mon objectif aussi, c'est de forcément, moi, je suis reparti de Jérusalem avec une pelote à dérouler, avec des intuitions, notamment sur ma vocation, puisque c'était une des questions sous-tendues de mon pèlerinage. Et en fait, l'écriture d'un livre permet d'aboutir à la réflexion, ça permet d'aller jusqu'au bout. Et surtout, ça permet de dire aux gens, bah voilà, on discute de mon pèlerinage, c'est chouette. Maintenant, si je lis mon livre, comme ça, tu verras par où je suis passé. Et puis, la discussion qu'on aura après sera sûrement plus profonde. On pourra aller un peu plus au bout des racines de cette aventure. Et puis surtout, moi, quand j'ai préparé le pèlerinage, j'ai lu beaucoup de récits de pèlerins. Et j'ose espérer que mon livre fera partie de la bibliographie du prochain pèlerin qui partira marcher vers Jérusalem.
On vous le souhaite vraiment et on ne peut que le recommander. Oriane, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Alexis ?
En tout cas, moi, pour l'écriture, alors je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur le Lhotse. Alors, j'avais déjà écrit avant, mais c'était plus dans le monde universitaire, puis c'était en anglais, donc c'était très différent. Et c'est au retour du Lhotse, parce que l'expérience avait été tellement forte, enfin voilà, et pour l'Everest, enfin c'est les deux, hein, ça a été le cas. Mais je me suis pas dit en fait, je vais écrire. J'avais même pas pris une note, que ça soit pour le Lhotse ou l'Everest, mais c'est resté tellement gravé. Enfin, je me souvenais de tellement de détails, de choses, de ressentis. Alors par contre, il y a des parties j'ai complètement, zappé. Enfin, c'est comme si le cerveau faisait une sélection parce que je pense que c'est lié au manque d'oxygène, etc. Mais à la fatigue, à l'épuisement. Mais par contre, il y a des moments qui sont restés vraiment gravés. Je m'en souviens encore très, très précisément aujourd'hui. Mais les livres, en fait, se sont presque imposés à moi au retour. Mais je n'avais pas l'intention d'écrire de livres. Mais c'est bien parce que finalement
vous témoignez et justement
et ça aide à mûrir en fait. C'est comme si l'expérience après elle continuait en fait. Enfin moi c'était écrire sur l'Everest, sur ou l'Otse, c'est quelque part c'est comme si je continuais le voyage quoi. C'est Et ça, en tout cas, c'est ce que ça me fait moi. Et donc, c'est un. Tous les matins, alors j'aime bien commencer tôt le matin. En général, quand j'écris, j'écris pas le soir. Par contre, mais tôt le matin, j'ai l'impression, voilà, c'est, je suis heureuse de me réveiller parce que je vais écrire, quoi. Je vais me reconnecter à ça. Et alors l'autre, tu sais, c'était un peu plus pénible parce que, mais l'Everest, c'était un peu plus simple. Mais voilà, je me reconnecte. C'est le voyage qui continue, quoi. Et puis on a le temps de réfléchir. Enfin, moi, j'ai pris conscience de certaines choses en écrivant, en fait, des choses que j'avais pas réalisées avant. Donc, c'est
Et vous, Alexis? Vous avez pris
Oui,
pareil en écrivant
oui. En écrivant, parce que bien évidemment, la volonté d'écrire, le projet d'écrire, mais c'est sûr que le temps long de l'écriture aussi, c'est-à-dire passer une journée, passer plusieurs semaines, plusieurs mois à écrire, ça permet d'affiner vraiment ce qu'on veut dire. Chaque phrase, en fait, doit être affinée, trouver le mot juste. Et c'est tout le process un peu parfois compliqué de l'écriture, parce qu'il faut réussir à dire en peu de mots beaucoup de choses de manière à ce que en fait les gens puissent puissent défiler les pages en étant pris par le récit. Mais c'est sûr que ça participe à la floraison de l'expérience qu'on a eue, ou en tout cas de comment dire, de la comment je pourrais formuler ça?
Alors peut-être que je vais le faire pour vous. Je
Ouais,
vais vous citer. Vous
je veux
écrivez,
bien.
je suis un témoin qui cherche à prendre la parole, à expliquer, à embarquer les autres sur la ligne du récit de cette treille mystérieuse. C'est pas mal ça,
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Je sais pas qui a écrit ça, mais ça
ben
m'est bien
voilà,
tiré.
bah.
Mais de fait, il y a cette idée de la treille. En fait, quand on termine une aventure, en tout cas physiquement, parce que c'est ce que disait Oriane dans l'écriture, en fait, on s'y replonge. Il y a une vigne à récolter et un vin à produire. Il y a quelque chose à presser, comme si on est pressé tout ce temps d'aventure pour en extirper la substantifique moelle, et c'est ça qu'il faut restituer au lecteur. C'est ça qui est important.
Donc, vous faisiez allusion tout à l'heure à votre préparation tentaculaire hein, d'un an et demi. Je veux juste l'évoquer rapidement, hein, puisque je rappelle, il s'agissait de marcher pendant 7 000 km, de traverser 14 pays tout de même. Donc, vous avez une préparation physique, littéraire, historique, spirituelle, linguistique, topographique, matérielle, budgétaire. Et là, je crois qu'Oriane avait une question sur sa préparation budgétaire. Si vous avez été peut-être aidé ou comment vous avez fait
Ah,
pour
non, non,
non.
pas spécialement une
Non.
question, mais
Non.
non, parce que j'avais lu des livres, enfin, parce que ça m'a toujours aussi intéressée. J'avais même parlé à un pèlerin qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui était parti aussi à Jérusalem de Paris, il me semble, mais il y a un moment. Et je lui avais parlé au téléphone alors que j'étais en Haïti, je travaillais en Haïti à ce moment-là, donc ça m'a voilà et je voulais me renseigner sur Jérusalem, donc ça c'était en 2010, je l'avais appelé de là-bas, de Port-au-Prince. Et non, mais je sais qu'il y a des pèlerins qui partent aussi sans le sou, sans argent. Voilà, je sais que ça se fait parfois même pour Compostelle ou pour d'autres. Et je sais qu'il y en avait un, mais c'était pas celui à qui j'ai parlé, c'est un autre qui était parti, il me semble. Mais sans argent, en fait, il avait tout fait. Et donc, non, c'était juste une réflexion que je m'étais posée avec
Alors
Pascal.
moi, je
C'était
me
pas une
pose cette question-là
question.
parce que je voulais pas poser. En fait, vous aviez un budget. Comment avez-vous fait justement au plan financier?
Moi, au niveau du budget, moi, je m'étais donné 20 euros par jour. En fait, c'est ce que vous dites, Toriane, c'est qu'il y a des pèlerins qui partent sans argent, il y a d'autres qui partent avec de l'argent. Moi, après réflexion, comme j'embarquais quand même du matériel pour filmer ce genre de choses, je me voyais pas trop arriver chez des gens qui avaient rien et qui allaient tout me donner, alors qu'en fait, moi, j'avais une caméra qui, si je la vendais, pouvait les nourrir pendant 6 mois. Donc, je m'étais dit que j'ai pris la décision de partir avec de l'argent. Et donc, du coup, j'ai pendant ces 1 an et demi de préparation, j'ai mis des sous de côté. Du coup, en totalité, ça m'a coûté 9 000 euros le pèlerinage.
D'accord.
Voilà. Et puis, en fait, certaines journées, moi, j'ai rien dépensé. Surtout que moi, je faisais un repas par jour en moyenne. Donc, c'était pas, un coût exorbitant. Ça m'a permis parfois aussi de donner l'argent à des gens qui étaient dans le besoin. Notamment en Hongrie, je suis tombé sur un jeune, c'était un mec de Liverpool qui s'était fait détrousser par des gitans et qui était en détresse totale. Et en fait, bah, je lui ai filé des sous pour qu'il achète son billet et qu'il rentre chez lui. Donc en fait, l'un dans l'autre, on peut se dire, voilà, le vrai pèlerin, c'est celui qui part sans argent. Mais en fait, l'argent peut aussi devenir un moyen d'aider les autres. Et c'est là où ça devient intéressant.
Très bien, très très bien.
Moi, personnellement, je ne partirais pas sans argent. Mais après, pourquoi pas, c'est une démarche autre.
Personnelle et autre. Alexis, donc vous partez en plein hiver. Vous partez un 14 janvier 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et très vite, alors vous partez avec un bâton torsadé qui est le seul élément sentimental, comme vous le dites, que vous prenez avec vous. Et puis, bien sûr, le sac à dos. Et là, très vite, vous allez éprouver l'école de la route dans un premier temps, donc le poids du sac à dos et la nécessité finalement de se délester.
Oui, tout à fait. Moi, je partais tout feu tout flamme sur la route et donc du coup, je m'étais un peu surchargé. Il y avait des choses. Justement, j'avais la préparation en fait. Alors, vous parliez d'une préparation tentaculaire, oui, mais en fait, se préparer pendant autant de temps. Ça peut être aussi un écueil. Et du coup, j'étais parti avec de quoi faire des croquis, avec une pharmacie ô combien garnie, avec de quoi faire des garrots, etc. Enfin, vraiment, j'avais poussé le truc au plus loin. Et en fait, à un moment, c'est pas nécessaire. Toutes ces choses-là, en fait, ça relève d'un fantasmé et c'est pas l'essentiel. Donc, en fait, c'est-à-dire, moi, c'est quoi, 2 semaines après être parti, j'ai des grosses douleurs à la cheville et ça m'oblige à alléger mon sac. Et ça m'oblige surtout à rester une semaine chez des gens qui me prodiguent des bons soins. Et puis, je repars en béquille sur la route parce que je veux quand même avancer.
Mais en avec béquille un sur la route, il faut le faire quand même.
Ouais, en béquille sur la route, ouais. Après, moi, durant ma jeunesse, j'avais des luxations à répétition. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en béquille. Je pense que si on cumule tous ces temps de rééducation en béquille, j'ai passé peut-être un an et demi de ma vie en béquille. Donc, pour beaucoup, ça paraissait être quelque chose d'impensable. Ah, il va repartir en béquille sur la route, il est complètement fou. Et en fait, moi, je savais que c'était le moyen pour repartir, sachant que, en fait, il y en a beaucoup aussi, quand je leur dis que je repartais en béquille, ils pensaient que j'étais toujours à cloche-pied. Mais en fait, les béquilles étaient juste un moyen d'alléger le poids sur ma cheville, de pouvoir continuer à la dérouler et en fait, de ne pas perdre le muscle. Et un peu comme une rééducation un peu hardie, j'en conviens. Mais du coup, ce qui était par ailleurs très drôle, c'est que, parce qu'après, moi, pendant 2 semaines, j'étais en béquille sur la route, j'arrivais chez des gens qui vraiment hallucinaient. Je leur disais, mais vous allez où comme ça? Bah, je vais à Jérusalem. Vous êtes en béquille quand même, vous le savez. Bah ouais, je suis en béquille. Eh bah, c'est bien. Bah écoutez, quand vous y arriverez ou quand vous reviendrez, vous viendrez me dire que ça, vous avez réussi quand même.
Mais c'est vrai
donc,
qu'Alexis.
Du coup, c'était très drôle.
Ouais, mais justement, c'est très drôle parce que vous pratiquez beaucoup l'humour aussi. Et dans les difficultés, vous aimez, vous dites, oh, quand les, par exemple, face au froid, aux mauvaises conditions climatiques ou voire aux contrariétés, ben vous chantez à tue-tête et ça vous fait du bien.
Ah oui.
On apprécie ça.
Alors, bien sûr. Non, mais alors, et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que j'aime beaucoup chanter. Alors, par le scoutisme, par ma vie aussi, j'ai toujours beaucoup écouté de musique. Et du coup, j'aime bien pousser la chansonnette. Et puis, ça permet de se décentrer aussi dans les moments difficiles. Ça, c'est un levier qui est très puissant. Qui peut parfois permettre de rencontrer des gens aussi parce qu'ils sont interloqués. Je me souviens sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait des gens sur le chemin des Argentines, qui étaient venus me voir en me disant mais qu'est-ce que ça fait 3 jours qu'on se suit un peu sur la route, on t'entend chanter, qu'est-ce que tu chantes. Donc là aussi il peut y avoir un parfum chrétien parce que bien évidemment moi je chantais aussi des chants cathos, des chants scouts et autres. Et c'est souvent quand je marchais de nuit ou quand il pleuvait que j'avais le plus de facilité à chanter. Par contre, quand j'ai franchi les Alpes enneigées et que vraiment c'était très compliqué, là je chantais pas parce que sur des journées entières où ça drachait fermement, de passer 5-6 heures à chanter quasiment continuellement, ou à réciter les textes de la littérature française, ou peu importe, mais en tout cas, le chant a été constitutif de mon itinérance, ça c'est sûr.
Alors, il est temps de reprendre le micro, cher Michel, d'autant que nous avons un message, je crois.
Tout à fait, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du 20 mai 2026, dirigé par Pascal Borer, assisté de Michel. Le thème de cette émission est « Quand le chemin réalise le rêve et la promesse ». Nos invités sont Oriane Aymar, auteure, conférencière et himalayiste pour son ouvrage « L'appel de l'Everest » aux éditions Mareuil, et Alexis Janson, auteur, conférencier et pèlerin dans l'âme pour son ouvrage « Jérusalem, une promesse » aux éditions Salvator dans la collection « Chemin d'étoiles ». Vous pouvez nous adresser vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courtoisierc.fr. Et nous avons un autre message. L'écrit est l'espoir de recevoir, dans les mots, un reflet de ce qui ne se laisse pas atteindre. De point, la lumière, la mort ou le danger. Remerciements pour votre émission.
Un très très grand merci, cher auditeur.
Je crois que c'est le même
auditeur. C'est le même auditeur, un très fidèle auditeur que l'on remercie, vraiment magnifique, toujours très 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 beau. Alexis Janson, donc on va évoquer encore ce qui concerne les difficultés, puisque c'est vrai qu'on a vu avec Oriane, il y en a eu beaucoup. Bon, vous dites en avoir eu moins, mais il y en a quand même quelques-unes où vous avez mis votre vie en danger aussi. Je pense à l'épisode en Turquie avec les meutes de chiens à plusieurs reprises. Ça a été un moment quand même très fort, ça. Heureusement que vous aviez votre bâton, d'ailleurs.
Ça a été une belle goutte de sueur sur le chemin. Surtout que moi, les premiers chiens que je rencontre sur la route, c'est au Kosovo, notamment à Pristina, qui est la capitale du Kosovo et qui est vraiment infestée de chiens errants. Alors ils sont pucés, ils sont bagués. Le gouvernement a mis en place des plans d'action pour la stérilisation, pour de l'adoption. Genre une personne qui adopte un chien à 50 euros par mois, vraiment avec une volonté vraiment de contrevenir à ce problème de sécurité, hein, très concrètement. Et donc, du coup, ça s'atténue en Grèce. Et en Turquie, je retrouve les chiens dans les campagnes. Alors, en Turquie, les chats, les villes sont le royaume des chats. Les campagnes sont le royaume des chiens. En fait, il y avait plusieurs types de chiens. Il y avait vraiment des chiens où des groupes de chiens où ils étaient 2-3 et c'est vraiment le chien aboie, la caravane passe, parce qu'en fait ils aboient sur le bord de la route mais ils approchent pas, et parfois même j'en avais marre parfois, donc je m'arrêtais et puis je les regardais, j'avançais vers eux et en fait ils fuyaient. Et puis après il y a eu d'autres configurations comme le gang de la route 981, donc cette meute de 20 chiens un peu vraiment déglingués, un peu une cour des miracles sur pattes. Et là, pour le coup, ouais, j'ai eu vraiment peur pour ma vie, parce que en fait, j'étais sur une grande route, mais il n'y avait pas de maison aux alentours. Et du coup, j'ai dû utiliser mon bâton pour me défendre. Et il y a aussi un automobiliste qui a pilé et qui a permis de faire fuir les derniers récalcitrants. Mais j'ai eu extrêmement peur à ce moment-là, parce que c'est compliqué de faire face à... Déjà, un chien qui grogne, c'est compliqué.
Oui.
Et avec une meute de chiens qui essaie d'encercler, d'autant plus. Ça, c'est clair.
Bien entendu. Et puis, il y aura d'autres passages. Je pense aussi à votre passage compliqué et dangereux à Jérusalem, pour entrer dans Jérusalem.
Ouais, où ça a été... là, pour le coup, c'était pas les meutes de chiens qui ont posé problème, mais c'est le
non.
En fait, l'incompréhension de voir un marcheur surgir au milieu des voitures. Où vraiment j'ai senti qu'ils avaient des procédures à respecter et que je contrevenais complètement aux procédures, je sortais complètement du lot, donc ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc après m'avoir envoyé vers un endroit où passer, donc je pensais que c'était un pont un peu plus loin, donc je marche pour y aller, et puis je me rends compte qu'en fait il est clôturé ce pont-là, et donc je ne pourrais pas y accéder. Donc je fais marche arrière, je regarde la carte pour voir les différentes entrées, mais les entrées étaient bétonnées. Et en fait, je comprends en voyant un bus que possiblement l'endroit où je devais aller était vraiment juste à côté de l'endroit où je voulais passer à la base. Et là, il y a un soldat qui me voit arriver et qui me dit de partir. Sauf qu'en fait, moi, je sais que mon seul point de passage possible, c'est à cet endroit-là. Et en fait, j'ai fait un aller-retour pour rien. Donc, en fait, j'ai perdu mon temps et ça commence à m'énerver. Et donc, et puis j'ai tout bien fait parce que j'ai regardé partout où je pouvais passer. Et en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, en continuant en avançant et puis en vociférant et voilà, en m'énervant, bah, en fait, il me braque. Il arme son fusil d'assaut. Donc, je m'arrête quand même, mais je continue à m'énerver sur place. Et puis là, il y a un de ses supérieurs ou un de ses collègues, je sais pas, qui arrive, qui met la main sur son arme pour la baisser, qui me dit d'approcher. Donc quand même, je lève les bras hein, pour montrer que je représente pas un danger. Et puis en fait, j'avais un visa, donc tout était en règle et j'ai pu passer. J'ai juste perdu mon temps.
Et puis quelques petites frayeurs quand même.
J'ai eu de la chance.
Oui.
Ouais,
oui.
Petites frayeurs. Oui,
on c'est, imagine. C'est clair. Alors heureusement, il y a quand même les belles rencontres aussi sur votre votre route. Celles qui vous font grandir. Hein. Et vous, d'ailleurs, vous écrivez de nombreuses âmes charitables m'ont accueilli les bras ouverts et je les remercie vivement. Peut-être un mot sur une belle rencontre avec Fesli en Turquie, ce jeune musulman.
Ouais, ça fait partie des plus belles rencontres. Alors non pas que les autres ont été moins belles, mais en fait là pour le coup la rencontre avec Fesli, donc à Karaman qui est en Turquie, c'est une rencontre un peu totale. C'est-à-dire que en fait j'arrive dans Karaman, donc pour contextualiser un peu, à la base moi je voulais joindre Mersin à pied en Turquie qui est sur la côte. Donc parce qu'il y a des ferries qui vont à Chypre depuis Mersin. Sauf qu'en fait en discutant avec des policiers, ils me disent ben, déjà la route vers Mersin est complètement bloquée, complètement enneigée. Donc, vous ne pouvez pas y passer. Et en plus, il n'y a pas de ferry à Mersin. Donc, je vérifie quand même sur Internet et je me rends compte que oui, il n'y a pas de ferry. Donc, en fait, il faut que j'aille à Silifke et Tachudzu, qui est sur la côte, qui est, quand on regarde la carte, qui est à gauche de Mersin. Et donc du coup, je dévie mon itinéraire pour passer notamment à Karaman. Et en déambulant dans Karaman avec mon sac, mon bâton torsadé, etc., j'attire l'attention comme très souvent parce que en Turquie, la majorité des Turcs pensent qu'on peut pas traverser la Turquie à pied. C'est quelque chose qui est oui. pas possible ou alors qu'on est complètement fou.
Peut-être un grain de folie. Hein.
Et donc du coup, on commence à mal paguer, j'y vais. Ouais, peut-être. Ouais. Commence à discuter. Ça m'offre du thé, ça m'offre des clopes. Et puis on discute. Fesli arrive. Et en fait, donc lui, musulman pratiquant, parce que même quand on discute, il me dit bah voilà, reste là. Moi, je vais faire ma prière à la mosquée qui est juste à côté. Et puis je reviens. On a eu une très belle discussion sur la religion, en prêchant chacun pour nos paroisses. Mais heureusement qu'il y avait le traducteur automatique, parce que moi, je vais parler de la parabole des talents, je vais parler de la Sainte Trinité, enfin voilà, des concepts à expliciter en turc, c'est un peu compliqué.
C'est clair.
Et donc, du coup, passé ça, en fait, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il me dit, je fabrique des misbaha. Donc, le misbaha, c'est l'équivalent dans la forme du chapelet, avec 99 perles, qui sont les 99 noms d'Allah. Et je lui dis, tu peux me faire visiter ton atelier ? Il fait, ouais, viens, je te fais visiter. Alors, moi, j'imaginais un truc un peu poussiéreux avec des vieilles machines, etc. Alors, non, une boutique très propre, avec peut-être juste le bureau où c'était un peu l'anarchie, parce qu'en fait, il travaille sur son bureau. Mais c'était une très belle rencontre, parce que justement, on a pu discuter de nos foi respectives, que ça a été respectueux, et qu'il y a eu un vrai partage, parce qu'en fait, il m'a emmené dans son univers, et c'était vraiment incroyable de pouvoir partager ce moment avec lui.
Très bien. Et vous évoquez aussi le fait que lorsque vous parlez, lorsque vous dites aux gens que vous allez jusqu'à Jérusalem, c'est pas sans effet de manche, hein, puisque cette annonce a des conséquences. Vous touchez les gens.
Alors oui. Alors il y a eu plusieurs types de conséquences. La première, c'est la première conséquence, c'est ça vient percuter les gens qui apprennent que je vais marcher jusque Jérusalem. Ça a été le cas en France, notamment. J'ai un ami d'enfance, Thibaut, qui est venu marcher avec moi, qui est revenu marcher en Serbie avec moi, et qui me rejoint à Ponchara, donc qui est à 3 jours de marche d'Albertville, voyant que en fait les gens sont ébahis quand je leur dis que je vais à Jérusalem, il dit vas-y, maintenant c'est moi qui dis qu'on va à Jérusalem parce que ça le faisait marrer, ça le faisait rigoler. Et puis on arrive aux abords de d'Albertville en longeant l'Isère. Et du coup, on rencontre un homme avec son fils qui, du coup, dit « Vous allez où avec vos sacs ?» Du coup, Thibaut me regarde avec un regard un peu gourmand et lui dit « On va jusqu'à Jérusalem à pied. » Et ça a déstabilisé cet homme-là qui s'appelle Mike quasiment jusqu'aux larmes parce que ça l'a extrêmement touché. Ça m'est arrivé aussi en Italie où je vais demander de l'eau dans un bar et puis la jeune femme en face me demande « Vous allez où comme ça ?»
Oh, petit souci. Et là, on vous perd un peu. Là, non, c'est bon.
Donc, il y a déjà cette première conséquence. Vous m'entendez ?
Oui, ça y est.
Est-ce que vous
m'entendez ? On vous avait un peu perdu. Oui,
moi,
oui.
Je vous entends, moi.
Oui. Eh bien, on vous entend aussi. Vous pouvez continuer.
Ouais, désolé. Et du coup, première conséquence, c'est que ça touche au cœur les âmes des gens que je rencontre. Sans qu'on sache vraiment parfois pourquoi, cette jeune femme en Italie qui a pleuré en apprenant que j'allais à Jérusalem, j'ai jamais su pourquoi elle avait pleuré, mais en tout cas, ça l'a beaucoup touché. Et puis, la deuxième conséquence de dire qu'on va à Jérusalem, et là, c'était le cas beaucoup plus en Turquie, où on m'a pris pour un espion sioniste. Donc, ça pouvait aussi impliquer un risque sécuritaire. C'est deux conséquences un peu identifiables de dire « je vais jusqu'à Jérusalem à pied ». Et puis, parfois, dire « je vais à Jérusalem à pied depuis la France », ça paraît tellement lointain que les gens se disent il est un peu foufou, mais en fait, est-ce qu'il nous a vraiment dit la vérité ? Est-ce qu'il va vraiment jusque Jérusalem ?
Et ils n'ont qu'à se procurer votre livre. Il faut qu'il soit traduit.
Ah, j'espère bien qu'il dit « mais c'est lui !»
Alors,
il est arrivé, il ne nous avait pas menti.
Donc vous allez traverser 14 pays avec des lieux bien sûr marquants, des instants forts. Je voudrais juste signaler le fait que les lieux qui témoignent du passage de Saint-Martin balisent votre parcours, parce que Saint-Martin, oui, on n'en a pas parlé. Pourquoi Saint-Martin ?
Pourquoi Saint-Martin ? Au début, c'était pas quelque chose qui était prévu, mais en fait, en travaillant l'itinéraire, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait le chemin de Saint-Martin qui partait de Tours. C'est le chemin que Saint-Martin a suivi pour retourner voir ses parents pour essayer de les baptiser. Et ne pas y baptiser sa mère. Son père refusera toujours d'abandonner les dieux familiaux pour se mettre au service du Christ et pour rencontrer le Christ. C'est notamment ma sœur qui écrit un des chemins partagés dans le livre, qui me dit « Mais en fait, tu pars de Tours, il y a le chemin de Saint-Martin. Ça pourrait être intéressant que tu marches dans un premier temps le chemin de Saint-Martin parce que c'est quand même dans la direction de Jérusalem. » Et du coup, moi, je me dis, c'est plus de 2 kilomètres, ça fait 2 pèlerinages en un, donc allons-y. Et pareil, en fait, ça permet de défricher un chemin de pèlerinage qui est de plus en plus connu, hein, le chemin de la Via Santi Martini, mais qui n'est pas forcément énormément. Je marche le chemin de Saint-Martin, à la fois parce que il y a une cohérence par rapport à mon lieu de départ, par rapport à la direction depuis la France vers la Terre Sainte. Et puis aussi, il y avait un écho, c'est-à-dire que Saint-Martin, quand il rencontre le Christ, très tôt, il est subjugué par la spiritualité du Père du désert. Et comme je passais au Mont Athos, c'était prévu, et puis j'ai eu la chance d'y passer par la grâce de Dieu.
Et ça, c'est un moment important dans votre livre
en
aussi.
Fait, ouais, très important, très important. Et d'ailleurs, c'est un lieu que j'ai vraiment repéré, parce que j'avais lu un peu des reportages, mais dans un récit de pèlerin, le récit de Jean Lescuyer, qui a marché en 99, il me semble, qui passe là-bas, et ça m'avait semblé être un endroit ô combien subjugant, et ça l'a été grandement. Je recommande chaudement à tous les hommes qui pourraient passer à proximité d'y aller.
Parce que les femmes, c'est un peu plus compliqué. J'aimerais bien y aller aussi, mais
ouais.
Bon.
Exactement. Ouais. C'est malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, ouais, ça a été un moment très fort du pèlerinage. Vraiment très très fort.
Donc le chemin de Saint-Martin s'arrête, s'achève en Hongrie, si j'ai bien compris, et notamment lorsque vous arrivez dans la ville natale de Saint-Martin, qui s'appelle, oui. Je vous laisse le prononcer.
Alors qui s'appelle, c'est Zlombatei.
Voilà, c'est ça.
Zlombatei. Ouais, en fait, Saint-Martin, il est soit en 316, soit en 336, selon les différents biographes qu'il peut avoir. Et en fait, il naît en Pannonie, qui est la Hongrie actuelle et qui faisait partie de l'Empire romain. Et du coup, c'était le nom de sa ville natale, c'était Sabaria ou Savaria, et qui maintenant s'appelle Zlombatei, qui est à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Slovénie. Et ça fait, c'est un des chemins de Saint-Martin, parce qu'il y en a, plusieurs. Il y en a un qui descend en Espagne, il y en a un qui monte aux Pays-Bas, il y en a un qui passe par Trèves. Et il y a le chemin de l'été de la Saint-Martin aussi. Le chemin qu'a suivi le corps de Saint-Martin quand il est ramené à Tours depuis Candes. Et puis le chemin de l'évêque qui va de Ligugé jusqu'à Tours, à l'issue duquel il devient évêque de Tours. C'est pour ça qu'on parle du chemin de l'évêque.
D'accord.
Mais donc, du coup, cette première portion, c'est 2500 kilomètres. 2500 kilomètres de Tours jusqu'à Szombathely en Hongrie.
Tout de même, quand vous passez les 2000 kilomètres, c'est sûr que c'est un moment fort aussi pour vous. Alors, les Balkans sont aussi un moment que vous avez particulièrement aimé, mais pas avoir trop le temps, malheureusement, d'en parler. Quoique, dites-nous de quelques mots quand même sur les Balkans. Vous étiez heureux.
Eh bien, alors, quelques mots. J'encourage tous ceux qui voudraient aller y marcher, d'y aller. Et surtout, ça permet de se rendre compte un petit peu de l'histoire, qui s'est déroulée avec la guerre des Balkans. En tout cas, notamment en Serbie, si je dois vraiment retenir un des pays des Balkans, c'est la Serbie, où les gens sont vraiment très accueillants. Et puis il y a des très beaux monastères, il y a toute la route des monastères. Si j'ai un endroit à conseiller en Serbie, c'est le monastère de la rivière noire de la Srenka Arena, qui est pas très loin du passage de la frontière avec le Kosovo. Et vraiment, ça vaut le coup. C'est un monastère qui est creusé dans la roche, donc qui est très impressionnant, consacré à Saint-Michel-Archange. Et du coup, j'encourage tous ceux qui voudraient aller visiter ces contrées-là d'y aller, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très beau et les gens sont très accueillants.
Alors, Jérusalem, on y arrive, vous y arrivez, la Terre Sainte. Vous arrivez donc à rentrer à Jérusalem. Vous écrivez d'ailleurs, il y a ici quelque chose de jaillissant comme une source qui coule à profusion. Et vous n'allez bien sûr pas rester immobile, ça c'est pas votre genre, donc vous allez vouloir avancer dans cette Terre Sainte. Vous allez d'abord vous rendre à Bethléem parce que c'est proche de Noël, et puis vous revenez à Jérusalem. Est-ce que vous voulez nous dire quelques faits marquants à Jérusalem en particulier, qui se sont passés pour vous ou intérieurement dans les cinq minutes qui nous restent
Pour moi, le plus marquant à Jérusalem, pour moi, ça a été les nuits de prière au Saint-Sépulcre, où j'ai passé plusieurs nuits en prière au sein du Saint-Sépulcre. Et ça, c'était vraiment très fort. C'était vraiment un des objectifs, au-delà d'arriver à Bethléem pour la messe de Noël. Mais c'était de pouvoir passer notamment la nuit du 31 décembre, au lieu d'aller boire des coups dans un bar et d'aller faire la fête. D'être en prière et juste être à disposition de Dieu dans le silence du Saint-Sépulcre. Donc ça a été très fort spirituellement. Après, ce que j'ai beaucoup aimé à Jérusalem aussi, c'est de voir toutes ces communautés vivre les unes à côté des autres, voir quelles étaient leurs interactions, et de pouvoir discuter aussi avec les gens vivant sur place. Et c'est là où c'est intéressant aussi, de discuter avec les gens dont Jérusalem est le quotidien, pour vraiment esquisser un avis, parce qu'en fait, plus on est en Terre Sainte, moins on la comprend, je crois. Mais en tout cas, ça a été très accueillant. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec tout le monde, avec des chrétiens palestiniens, avec des musulmans, avec des juifs orthodoxes, avec des colons, enfin avec des religieux, un peu avec tout le monde. Et c'est très intéressant.
Les religieux, notamment, il y a les bénédictines du Mont des Oliviers, aussi les sœurs de Bethléem, au sanctuaire de Der Rafat, que vous allez aider aussi, vous les aider. Et vous allez avoir d'ailleurs aussi une belle discussion avec une carmélite de 90 ans, qui a tout donné au Seigneur. Et on va voir que ça va avoir des répercussions pour vous. Vous dites, j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler, de l'évoquer, Jérusalem a besoin de ses pèlerins malgré la guerre.
Oui, c'est quelque chose que je dis, mais c'est quelque chose qui a été réitéré de nombreuses fois par le patriarche latin de Jérusalem,
malgré
Zabala.
Oui, malgré quand même les circonstances actuelles qui auraient
malgré la guerre, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est à mon sens, c'est là où on voit aussi que le malin œuvre le diable œuvre à travers ces conflits-là aussi pour vider de sa substance la Terre Sainte, qui est en fait la foi vibrante des origines, des racines. Et c'est sûr, c'est quelque chose qu'avait dit aussi le grand chef de la custodie, donc qui est de l'œuvre franciscaine en Terre Sainte. Il y a eu dans le Saint-Sépulcre, il y a les travaux de restauration archéologique, etc. Il y a une chapelle croisée qui a été restaurée. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la messe, à la première messe après restauration. Donc, j'ai emmené mes parents qui étaient à ce moment-là présents à Jérusalem.
Quelle chance.
Et le grand patron de la custodie disait que c'était important de resacraliser cette chapelle. Et après, même, il y avait la bénédiction des dortoirs des franciscains. Parce qu'il disait, le Saint-Sépulcre est un endroit où vivent des religieux, notamment les franciscains, ils habitent dedans. Et en fait, s'ils n'habitaient plus dedans, bah, ça deviendrait le musée d'une spiritualité, d'une foi qui a existé. Mais il n'y aurait plus, besoin de... Bah, alors, il y a aussi besoin de pèlerins, parce que c'est ce qu'on disait, voilà, il y a une source jaillissante en Terre Sainte, et aller s'abreuver à cette source jaillissante, bah, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Alors,
qui est vraiment nécessaire.
Avez-vous trouvé votre vocation ?
Alors,
en moins d'une minute, s'il vous plaît.
Je repars avec des intuitions qui s'étoffent de plus en plus en moins de 10 minutes. Très bien.
En moins d'une minute.
Eh bien, je... Oui, c'est-à-dire que moi, je repars de Jérusalem. Je repars de Jérusalem avec la certitude que je suis appelé à faire vivre les chemins de pèlerinage et à encourager les gens à s'y engager. Et du coup, d'aller défricher des chemins de pèlerinage qui sont peu connus. D'ailleurs, le pèlerinage de Jérusalem est possible. D'ailleurs, il y a des pèlerins là qui sont passés par la Syrie il n'y a pas très longtemps. Donc, le chemin se réouvre. Mais que, voilà, il faut marcher les chemins de pèlerinage pour les faire vivre. Et que je suis appelé à être un témoin justement de ces chemins de pèlerinage-là, pour comme un peu un gardien de ces chemins-là, un gardien de la tradition.
Très bien, très très bien.
Et que j'espère que les gens pourront aller marcher ces chemins-là.
Mais écoutez, un grand merci à tous les deux parce que vous nous offrez plein de perspectives aussi avec votre façon personnelle de réagir. Merci pour ces deux ouvrages, donc Oriane Aymard, L'appel de l'Everest, et puis Alexis Janson, Jérusalem, une promesse. Nous vous souhaitons de nouvelles aventures. J'ai pas le temps de vous poser des questions, mais en tout cas, on a hâte de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour une prochaine fois. Merci beaucoup Michel, merci Benoît, merci au secrétariat. Et puis, chers auditeurs, un grand merci également. Et n'oubliez pas votre obol si fondamental pour notre radio. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration dirigé par Pascal Morer, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.